Bonjour à tous et bienvenue sur l'art du temps. Aujourd'hui, nous allons interviewer Laurent Picciotto, fondateur de Chronopassion. Ce podcast est l'extrait d'une vidéo disponible sur la chaîne YouTube Clément Entretemps. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre une note à ce podcast. Bonne écoute.
Je suis avec Laurent Picciotto. Bonjour Laurent.
Salut.
Merci à toi de m'accueillir dans ta boutique.
Je t'en
une
prie.
Nouvelle fois.
Ouais.
D'ailleurs, la vidéo qu'on a faite ensemble sur MBNF a plutôt bien marché.
Mm-hmm.
Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Et justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ton parcours, de ta boutique, qui est Chronopassion. Et c'est vrai que tu es l'un des retailers les plus atypiques au monde.
Mm-hmm.
On va dire ça comme ça.
Le plus déraisonnable.
C'est ça. Où on va retrouver des pièces très extravagantes et poussées aux extrêmes, si je peux dire. Et donc, la première question qui me vient en tête, c'est comment était Laurent à l'âge de 20 ans ?
Pas fréquentable. Non, à l'âge de 20 ans, comme quand on a 20 ans, quoi. C'est-à-dire plutôt attiré à faire des bêtises ou la fête ou quoi que ce soit d'autre que d'être très sérieux. Mais déjà à l'époque, un intérêt pour la guitare électrique, pour les motos.
Mmh.
les montres, un petit peu, mais de loin. Voilà, mais après, cela étant, je travaillais assez jeune, puisqu'à 21 ans, je commençais à travailler dans une banque.
Ok. Et justement, mais comment t'es venu au fur et à mesure du temps, mais cette passion.
L'idée, elle est assez classique. Hein. Enfin, le parcours, il est assez classique sur l'intérêt, en tout cas, par rapport aux montres. C'est que mon père aimait les montres. Il m'emmenait de temps en temps, pas très fréquemment, mais de temps en temps, quand il y avait quelque chose qui lui semblait important. Donc, ça nous est arrivé d'aller faire la rue du Rhône à Genève. À l'époque, dans les années 80 ou fin 70, début 80, ou d'aller dans des boutiques qui n'existent plus, comme les Temporelles, Place Vendôme, qui était le premier étage de chez Chaumet, qui était un multimarque un peu atypique aussi à l'époque.
Oui.
Où on avait été voir
la Royal Oak.
Toute première Royal Oak. Donc j'avais un intérêt, on va dire, filial. Mon père m'a transmis doucement l'intérêt pour les montres. Je ne connaissais pas bien le sujet, mais c'était, si je voyais une vitrine horlogère, je m'arrêtais pour regarder,
pour voir.
Et j'achetais de temps en temps des montres qui n'ont évidemment pas grand-chose à voir avec celles que j'ai eues entre les mains par la suite. Mais donc c'est venu comme ça, vraiment. La filiation paternelle sur le sujet.
C'est ça, mais donc c'est ton père qui t'a donné cette passion.
Ouais.
Quelle a été ta toute première montre ?
Ma toute première, ça devait
Ou
être
l'une
une...
des premières.
Ma toute première, petit, ça devait être ce qu'on appelait une mini-lip, qui était une montre pour apprendre à lire l'heure.
Ah, je crois voir.
Donc avec moins 20, moins un quart, moins 10 sur... pour les minutes, des codes couleurs pour les chiffres. Je l'ai encore, quelque part.
Tu l'as encore ?
Ouais. Et mais c'était vraiment une montre pédagogique qui pourrait tout à fait ressortir aujourd'hui dans la mesure où on a quand même beaucoup de porteurs de montres à affichage digital, quel que soit le procédé.
C'est vrai.
Donc c'était une montre amusante. Après, la première montre, on va dire, peut-être...
De luxe, entre guillemets.
Alors, de luxe, peut-être pas, mais on va dire que je considérais comme ma première montre sérieuse. C'était un chronographe Seiko. Jour, date, cadran bleu, bracelet métal. Je me souviens avec le jour qui pouvait s'afficher en anglais ou en français, qui étaient les premières importations de la compagnie générale horlogère à l'époque, qui distribuait Seiko pour le marché français, et qui avait fait un record avec ce modèle-là, qui a marché d'ailleurs dans le monde entier. Hein. Mais ça, c'était ma première montre, sérieuse d'ado, quoi.
Et que tu as toujours ?
Que j'ai toujours, et que j'ai fait restaurer, parce qu'elle était dans un état... Ouais.
J'imagine.
d'un porteur de 14 ans qui vraiment l'a cogné partout. Mais je l'ai fait restaurer pour la valeur sentimentale, on va dire.
Normal. Mais on est dans les années 70, il y a Seiko qui arrive avec les premières montres à quartz. Mmh. Mais comment tu as vu l'arrivée du quartz? Mais tu n'avais pas encore commencé Chronopassion.
Non, mais mon père, je me souviens, un matin, m'a dit il faut qu'on aille au Seiko Center sur les Champs-Élysées.
Ouais.
Il y a une montre à quartz avec un affichage à cristaux liquides. Et ils ont reçu les toutes premières pièces. Et il l'a acheté. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a acheté la montre de Star Trek, quoi.
Ah oui.
Ouais.
À ce moment.
Et le fait est qu'à l'époque, c'était une révolution. Et c'était une révolution, d'ailleurs, on a un peu oublié ça, mais je veux dire, dans le même moment, avec le recul, maintenant on sait qu'à l'époque, beaucoup de maisons horlogères jettent presque les montres dans le lac, les écoles d'horlogerie ferment, il y a une crise absolue en disant, voilà, la mécanique c'est terminé, on n'y reviendra pas. L'avancée de précision par rapport à cette technologie détrône immédiatement toute la tradition horlogère. Et moi, je me souviens que mon père, d'ailleurs, à l'époque, c'était un peu dit la même chose. Il a dit, bon, c'est bon, mes montres traditionnelles, je peux les mettre dans un tiroir.
À ce point, ouais. Ah oui.
Mais ça a été une idée qui a été assez répandue à l'époque. Et puis, contre toute attente, parce qu'en matière de prospective, c'était difficile d'imaginer qu'on reviendrait aux sources, on y est revenu. Oui. On y est revenu pour la valeur, la valeur de l'apport artisanal,
du savoir-faire,
de la tradition, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le quartz nous a moins fait rêver pour une majorité de passionnés, considérant que le process était quand même assez éloigné de la magie de fabriquer des pièces, de les assembler, de monter une montre traditionnelle.
Bien sûr. Est-ce que ta vision de l'horlogerie à l'époque est la même qu'aujourd'hui ?
Non, je pense que la vision, mais ça je pense que c'est vrai aussi de façon assez générale, dans un parcours initiatique, quel qu'il soit, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, on n'a pas la même vision parce qu'on emmagasine des connaissances, on exerce aussi son œil en fonction du nombre de pièces qu'on a vues au fur et à mesure du temps. Et bien souvent d'ailleurs, quand on commence à s'intéresser à un sujet, et qu'on commence éventuellement à acheter des pièces de ce sujet, quelques années après, on se dit, tiens, évidemment, aujourd'hui, je n'achèterai plus la même chose. Pas toujours, mais parfois. Mais parce qu'on finit par cultiver son savoir, son approche. Alors après, il n'y a pas de vérité. Chacun a ses goûts, son sentiment. Mais je pense que dans toute collection, on atteint finalement à un moment forcément un peu plus de maturité parce qu'on a plus d'informations et de connaissances.
Forcément. Et avant Chronopassion, qu'est-ce que tu faisais ?
Je travaillais dans la banque, j'ai travaillé dans l'assurance, j'ai fait vraiment différents métiers. Je travaillais dans le compact disque aussi.
Ah oui.
Et là, il y avait une petite similitude aussi avec la crise du quartz dont tu parlais. C'est que je travaillais avec une des toutes premières usines suisses qui fabriquait des compact disques, à une époque où il n'y avait que 3 unités de fabrication dans le monde. Et c'était très difficile de convaincre les éditeurs de musique de passer sur un nouveau standard. Quelques années après, les choses se sont installées, les centres de production se sont multipliés. Les prix ont baissé et le CD est rentré dans cette industrie. Mais je fais différents boulots. jusqu'au jour où je me suis dit finalement, tout ça je le fais avec conscience et ça m'intéresse. Mais finalement, si j'ouvrais une boutique consacrée uniquement aux montres, ça m'intéresse. Enfin, je serais bien intéressé pour faire tenter cette aventure.
Mais quel a été le déclic où tu t'es dit de l'idée de Chronopassion à
Au tout départ, j'ai dit bon, je vais commencer par aller faire un tour en Suisse. Je vais aller voir les différentes maisons, en tout cas celles qui veulent bien me recevoir. Je vais aller à la foire de Bâle et puis on va voir ce qui se passe. Bon, à l'époque, j'ai même pas encore véritablement d'idée de où pourrait se situer la boutique dans Paris. Hein.
Oui.
J'en sais rien. Et donc, je vais voir un certain nombre de maisons, dont Gérald Janta, puisque mon père avait déjà acheté quelques pièces Janta à l'époque. Et donc, je rencontre Monsieur Janta qui me dit « Écoutez, pourquoi vous voulez ouvrir et être multimarque ? Moi, je fais 300 nouveautés par an, j'ai des pièces compliquées, j'ai des pièces fun, j'ai des pièces de toutes sortes. Vraiment, ça n'a aucun intérêt de faire d'autres marques que la mienne. Donc les talents de vendeur de Gérald, moi, je sors de là, je dis bon, ok, j'adore les montres Janta, mais je ne suis pas sûr que ce soit très facile pour deux raisons principales. La première, c'est qu'à l'époque, c'était les montres les plus chères du marché, mais c'était certainement pas la marque la plus connue. Et bon, je vois quand même quelques autres maisons à cette époque-là. Et finalement, je cède à la proposition de Janta en disant bon, ok, allons-y, démarrons comme ça, tout en me disant bon, il sera toujours temps de voir ce qui se passe et de compléter par d'autres marques, le cas échéant, dans l'avenir. Et donc j'ai démarré en fait ensuite j'ai pris la boutique rue Saint-Honoré et j'ai démarré donc en septembre 88 en monomarque Janta,
du coup.
Bon, ce qui existait évidemment nulle part. Et là je suis rentré dans deux ou trois années assez particulières parce que comme je pouvais l'imaginer, la marque était très peu connue, donc j'avais un trafic de visiteurs extrêmement faible. Je crois qu'on était à 1,7 personnes par jour.
Ah oui.
Beaucoup de gens s'enfuyaient quand je leur donnais les prix. Mais au sein de tout ça, malgré tout, il y a un certain nombre de gens qui connaissaient bien la marque, qui sont venus me trouver, et puis les choses se sont gentiment faites. C'est-à-dire, on a eu des clients qui sont venus, qui ont dit « J'ai des cadeaux à faire, je veux 10 pièces tout heure, comme ça. » J'aimerais commander la répétition minute, mais pas la version ronde, la version ovale, etc. Bon, alors ça faisait pas un grand nombre de montres, hein. Je pense qu'à l'époque, on devait faire peut-être quarantaine de pièces dans l'année. Mais bon, on rencontrait des gens qui étaient déjà
avertis,
assez aguerris, ouais, sur le sujet, avertis. Et puis au bout de deux ans et demi, je dis à Gérald, bon, malgré tout, je pense que si je veux avancer, je ne peux pas continuer à être monomarque. Et donc, j'étais à la foire de Bâle 91, je pense. Et j'étais voir, grosso modo, la plupart des marques qui me semblaient évidentes. Maintenant, la question, c'est toujours la même, hein, dans ce métier ou dans d'autres, c'est que les gars voient arriver un jeune type à l'époque qui dit « Bon, voilà, je vois une boutique Janta. » Déjà, ils disent « Bon, c'est pas évident. » Et j'étais parti pour commander beaucoup de pièces compliquées, beaucoup de choses particulières. Et je crois que cette année-là, j'ai dû revenir avec 13 ou 14 marques, donc, qui allaient de Audemars Piguet à Vacheron Constantin, en passant par, par IVC, par Geiger, et pas mal d'autres. Avec également à l'époque déjà des marques un peu intimistes, indépendantes. J'ai acheté des pièces à Sven Andersen à l'époque, qui était à l'Académie des Indépendants. On a fait des choses un peu particulières, certaines marques aussi qui ont disparu depuis. Donc, d'un seul coup, je suis devenu multimarque et les choses ont changé pas mal. C'est-à-dire que l'offre étant plus importante et avec des marques de notoriété un peu différentes de celles de Jeantin, même si certaines marques étaient intimistes à l'époque, hein, je pense à IVC dans les années 90, c'était évidemment, d'abord, c'était pas la même. Les mêmes propriétaires, mais c'était plus intimiste que ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était les pubs en noir et blanc, c'était Bloomline, enfin bon, on était dans une autre dimension. Mais on a participé à l'évolution et la croissance de ces marques-là. Et puis c'est des années aussi un peu différentes de ce qui a suivi, c'est-à-dire que dans les années 90, les montres, ça intéresse beaucoup moins de monde que ce que c'est devenu par la suite. On est plutôt à l'époque avec des gens d'un certain âge, une clientèle d'âge mûr. Et puis, j'ai envie de dire que le soubresaut en 95 commence, c'est-à-dire on commence à s'intéresser, à revenir aux montres mécaniques. Jean-Claude Biver, évidemment, participe à être un des principaux détonateurs de ce sujet avec Blancpain à l'époque, où il prêche donc les maîtrises des pièces d'exception. Il remet en avant vraiment toute la tradition à ce moment-là, à une époque où il n'y a pas grand monde qui connaît le sujet, sauf les collectionneurs vraiment de la première heure, mais qui sont très peu nombreux. Et il entraîne dans son sillon vraiment un assez grand nombre de maisons qui également se mettent à communiquer, à faire des choses compliquées, etc. Et on peut considérer que de 95 à 2000, c'est un peu la gestation de tout ça par rapport au marché. Et puis le marché devient explosif à partir du début des années 2000.
Au début des années 2000.
Et là, on voit aussi, par rapport au début, que l'âge des gens a changé.
Ils sont devenus plus jeunes.
Beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire, mais aussi parce que il y a eu des traders, il y a eu la tech, il y a eu plein de choses qui font que on a vu des gens venir de différents continents qui avaient parfois 25 ans et qui avaient aucun problème pour mettre 200 000 dollars sur la table par rapport à telle ou telle pièce qui les séduisait et qui avaient commencé à s'intéresser à ce sujet. Ensuite, il y a eu les pays qui ont émergé, c'est-à-dire le marché russe,
la Chine,
suivi de la Chine.
Moyen-Orient aussi.
Qui a toujours été d'une certaine façon, mais qui a suivi aussi ces évolutions de marché. Donc début 2000, ça a été une sorte de... On est rentré dans une bulle, que ce soit pour les marques, que ce soit pour les sous-traitants, que ce soit pour les détaillants. Je veux dire, on est rentré dans une sorte d'euphorie, un peu compliquée d'ailleurs, un peu complexe dans la mesure où à un moment donné on a vu arriver aussi énormément de nouvelles marques. Et énormément de gens qui considéraient que finalement s'il y avait une ruée vers l'or entre guillemets sur l'horlogerie, si eux possédaient déjà une marque pas forcément horlogère mais à puissance de feu suffisante pour également se permettre de faire des montres, tout le monde est venu. Donc on a vu des couturiers qui sont encore là aujourd'hui et qui sont devenus des acteurs aussi horlogers que, oui. Que ceux qui étaient déjà là. Donc ça a été quand même très explosif par rapport à un secteur où il ne s'était pas passé grand-chose depuis assez longtemps. Et moi, à cette époque-là, bah, ça faisait déjà donc une douzaine d'années que j'étais ouvert, donc avec des marques institutionnelles et des marques indépendantes. Et on a bénéficié, comme beaucoup d'acteurs à l'époque, de ces années incroyables.
Oui.
Où vraiment, mais qui a été aussi une source de compétition intéressante au niveau des horlogers entre eux. Jusqu'à la déraison parfois, c'est-à-dire je vais faire plus compliqué que le voisin, mais à un moment donné c'est tellement compliqué que c'est absurde.
Oui.
Donc on a vécu ça aussi. Il y a aussi des maisons qui se sont perdues dans l'euphorie du succès. Il y a eu ça aussi. Ça a été une période assez drôle en réalité, mais qui était pour des novices un peu compliqué à suivre, en disant pour rien. Tous ces gens qui font des montres, et on ne compte pas une marque qui ne fait pas de montres, tout le monde en fait. C'est plus facile de compter ceux qui n'en font pas. Et on voyait, que ce soit à Bâle ou à Genève, des stands chaque année plus imposants, plus onéreux, plus dingues, qui venaient présenter les nouveautés de l'année. Donc, je peux comprendre qu'à l'époque, j'avais des clients qui me disaient « je ne m'y retrouve plus ». Merci de m'aider à recentrer mes choix, à dire « ok, est-ce que ça a de l'intérêt, est-ce que ça n'en a pas, etc. » Bon, moi, je leur disais en toute bonne foi mon sentiment, en leur disant « bon, maintenant, c'est mon sentiment. Il faut aussi croiser les discussions avec d'autres intervenants de notre industrie. » Mais quand la bulle a explosé, qu'on peut considérer...
Suite à la bulle technologique. Ben, tu penses que c'est en...
Non.
Non,
non, je pense qu'en fait, on a bénéficié d'une quinzaine d'années assez folles sur ce marché, et où à un moment, les choses sont retombées à plus de normalité. Donc ça a été une chute relativement importante qui a démarré, on peut considérer, à partir des années 2015. Mmh. Alors après, une chute globale, maintenant il y a des marques qui n'ont pas ressenti ces effets-là. Entre-temps, on a Apple qui est arrivé, qui a volé le poignet de beaucoup de clients qui, d'un seul coup, dit j'ai besoin ou je pense avoir besoin d'être connecté jusqu'à ma montre. Et donc, ma montre mécanique à côté, c'est très bien, ça m'intéresse plus. Mais on va dire, grosso modo, moi, en 2015, les choses se sont compliquées, la bulle était terminée, mais on est revenu à une réalité plus objective. C'est-à-dire que on a arrêté les bêtises, je dirais, d'un certain nombre de maisons qui commençaient à créer des trucs un peu dans la déraison de cette euphorie, et sont revenus à des codes, on va dire, plus terre à terre, pour convaincre de leur savoir-faire, de la technique, de leur design. Et donc les choix se sont recentrés. Alors même si c'était, en termes de business, plus facile auparavant, je trouve que ça a donné une note d'objectivité pas inintéressante.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, on remarque avec plus d'attention quand des nouveautés qui sont très impactantes sortent. On le remarque beaucoup mieux qu'à une époque où il y avait
énormément de choix.
Un gisement, une profusion presque permanente de nouveautés. Mais mon idée aussi à l'époque, c'était de dire, on a ouvert une boutique qui fait que des montres, contrairement à ce qui était les usages et coutumes dans notre métier depuis bien longtemps, c'est-à-dire que les joailliers ou les bijoutiers étaient horlogers, mais au même titre qu'ils vendaient aussi de l'orfèvrerie jusqu'à la timbale pour la première communion, etc. Donc, moi, mon idée, c'était de dire j'aime bien les bijoux, mais je considère que c'est vraiment un autre métier, et ce qui est le cas. Moi, j'ai envie d'ouvrir uniquement des montres, donc un espace qui sera dédié vraiment à ce sujet-là, avec un cahier des charges qui était le suivant, c'était de dire, en réalité, la marque est importante, mais ce n'est pas fondamental. Ce qui compte, c'est de dire, finalement, dans les objets qui peuvent nous convaincre de séduire nos clients, on va prendre ce qui semble amener quelque chose au sujet. Alors, de façon très subjective, bien sûr, mais de dire, voilà, ça, je le prends parce que, en termes techniques, c'est majeur, ou je laisse tomber telle marque qui, à un moment donné, ne me semble plus amener quelque chose à la cause. Alors, il peut m'arriver aussi de dire, je prends telle marque, même si elle n'a pas des prétentions horlogères, on va dire, ultra fortes et fondamentales, mais de dire, finalement, en termes d'habillage et de design, elle amène quelque chose au sujet. Donc, c'est vraiment c'est pour ça que le choix, à la fin, il est unique et hétéroclite. C'est qu'en règle générale, et c'est bien légitime, un revendeur horloger, il va prendre les marques qu'on lui demande, d'une certaine façon. Donc, les marques souvent les plus connues, les plus véhiculées et les plus demandées. Moi, ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas fait peur, même si c'était vraiment un autre angle, d'avoir un certain nombre de marques dans cette définition, mais aussi un certain nombre de marques où il y avait tout à faire, et de démarrer avec des indépendants presque au début, parfois. Donc ça a été le cas avec Max Busser, avec Urwerk, quelques années après qu'ils aient démarré, mais où ils étaient encore en recherche d'eux-mêmes. Ça a été le cas avec Richard Mille, avec lequel j'étais même actionnaire et cofondateur. On a accompagné comme ça beaucoup de maisons. Récence, même des années après, on était le premier à représenter ces montres dans le monde. Donc, c'était souvent une conviction de dire « Waouh, ça, c'est intéressant, c'est cool, ça amène quelque chose. » ça a été le cas avec Moser, ça a été le cas avec Panerai, puisqu'on a fait Panerai alors qu'à l'époque, Richemont n'avait pas encore racheté la maison. Et on était seul détaillant avec l'horlogerie suisse de Florence. Donc on avait des modèles forcément pré-Richemont. Donc tout ça, c'était finalement une improvisation libre sur un sujet passionnel, en disant tant pis pour la difficulté de démarrer des histoires, parce qu'il y a évidemment des histoires qui se sont pas faites, c'est-à-dire des marques qui, à un moment, pour X raisons, n'ont pas réussi, ont périclité, ont disparu. Mais globalement, quand je me souviens, au dernier salon de Genève, ça devait être il y a 2 ans, je crois, maintenant, 2 ou 3 ans, un copain, quand on arrive au SIHH, me dit, c'est quand même marrant, maintenant qu'il y a le carré des horlogers, on peut considérer que tu t'es pas trop trompé, puisque la plupart de ceux avec qui tu travailles sont là. Et je lui dis, oui, je suis ravi de ça. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment de contentement, et puis ça fait plaisir de voir que des gars qui sont arrivés il y a X années en disant, voilà, on n'a pas une thune, on a des dessins, on a des idées, on sait faire. Est-ce qu'on peut imaginer une façon ou une autre de faire quelque chose ensemble, que ce soit sous forme de souscription ou que ce soit sous une autre forme. Et quand ça a été le cas pour un certain nombre, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir que certains sont en super forme, que ça marche toujours et qu'on travaille toujours ensemble et que ça continue de nous étonner. Donc ça, c'est assez plaisant.
Normal. Comment tu as réussi, enfin, du coup, avec les marques, à les faire connaître?
D'abord, j'ai envie de dire que c'est pas que mon boulot.
Oui, non.
C'est leur aussi.
Bien sûr.
Parce qu'à une époque, on disait aussi... Bon, c'est pas grave, tu vas aller chez Laurent et puis voilà. Ça va se faire tout seul. Bon, ça, c'est me prêter beaucoup de force qui n'est pas tout à fait vrai. Non, je leur ai servi souvent je leur ai souvent servi de référenceur, c'est-à-dire que un certain nombre de boutiques puissantes dans le monde, que ce soit Hourglass, que ce soit Westheim, que ce soit Pisa, que ce soit Marcus à l'époque, les ambassadeurs ou autres, ils regardaient toujours qu'est-ce que je faisais, quelle était la nouvelle marque que je prenais, etc. Et c'était évidemment souvent plus facile pour un indépendant qui arrivait d'aller les voir en disant bon bah j'ai signé avec Chronopassion. Bon oui. Alors ok, alors s'ils l'ont signé. Donc c'est là où je disais pour eux c'était plus d'abord un référencement. Après je faisais mon boulot comme la plupart des détaillants, c'est-à-dire de mettre en avant les nouveautés qui nous ont conquises, convaincues, et donc de véhiculer le message et d'être à l'ambassade, parce que finalement être revendeur, c'est être à l'ambassade des maisons avec lesquelles on travaille. Pour moi, c'est hyper clair. Toutes les marques que je représente, d'une certaine façon, je m'en sens même comme si j'étais actionnaire de ces maisons. Et comme je parle plutôt directement, c'est parfois il y a des étincelles, parce que quand c'est super, je dis c'est vraiment bien, c'est génial. Mais quand il me semble qu'il y a une erreur de stratégie ou un truc, je vais m'énerver comme si j'étais au conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas. Alors, mais c'est pas contre, c'est pour.
Bah oui, mais c'est pour eux.
Mais parfois, bon, les susceptibilités des uns et des autres peuvent recevoir ces messages de façon, on va dire, moins objective que ça le mérite.
C'est vrai. Mais tu as quand même collaboré avec beaucoup de marques. Mmh. Mais laquelle des collaborations t'as le plus marqué ?
Bah, c'est difficile à dire. Parce que c'est des questions d'époque.
Oui.
Tu sais, on dit souvent la montre que je préfère, c'est toujours la dernière ou c'est la prochaine.
Ouais.
Bon. Je pense que Ginta m'a beaucoup marqué parce que d'abord c'était un personnage, que c'était le début de mon aventure, que j'avais 27 ans. Gérald, c'était un sacré bonhomme. Lui m'a beaucoup marqué, mais au même titre que beaucoup d'autres par la suite. Je veux dire, dans les rencontres, il y a eu des choses particulières, que ce soit... c'est pour ça que c'est pas tellement... C'est aussi une question de bonhomme. C'est-à-dire que les marques, de toute façon, ce sont des êtres humains derrière. Donc, Mais c'est comme les objets. En fait, on est passionné de montres, mais en réalité, on achète aussi
le personnage
ou les équipes qui sont derrière. Parce que sinon, ça aurait beaucoup moins de... Si on reste sur les objets inanimés, même si les montres sont animées, bon... Et donc il y a eu des rencontres fortes dans cet état d'esprit, que ce soit Günther Blumlein, après je vais en oublier, donc c'est pas cool, que ce soit avec Richard, on a eu des très belles années, même si aujourd'hui on est plus en froid, le Max Busser, Félix Baumgartner, Jean-Claude Biver bien sûr, il y a eu au fur et à mesure de toutes ces rencontres, de toutes ces marques, de toutes ces maisons. C'est pour ça que c'est difficile de dire le truc qui m'a le plus
marqué.
Marqué. En fait, toutes ces marques avec lesquelles j'ai travaillé m'ont marqué. Et puis encore récemment, c'est-à-dire si je prends la dernière décade, on va avoir des gens comme Babin pour Bulgari ou Fabrizio Bonamassa, des Benoît Mintins pour Ressence, Édouard Mélan pour Moser bien sûr. Enfin, il y a toujours. Mais c'est pour ça que c'est comme si tu me demandais finalement quelle est ma marque préférée dans ce que je propose. Aujourd'hui, on fait une trentaine de marques.
Donc c'est compliqué.
Et franchement, alors oui, il y a des hiérarchies qui se font au fur et à mesure des nouveautés et de la vie des maisons. Mais à la fin, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs auparavant, il y a une époque, j'avais acheté de toute façon quasiment une ou plusieurs montres de toutes les maisons que je représente.
Oui.
Donc, c'est très difficile de choisir, et même dans ce que je viens de dire, j'oublie sûrement des marques ou des personnes. Bon, maintenant, il y a des choses aussi avec lesquelles on ne travaille plus, pour différentes raisons. Hein. Je veux dire, j'ai accompagné Audemars Piguet pendant très longtemps. Oui. François Benamias
était là juste avant Hublot.
Mais François était déjà là au tout début, même après que nous, on ait Audemars à l'époque. Et on a fait plein de choses ensemble. Ça a été formidable. Il y a véritablement, c'est des aventures humaines malgré tout, au travers de drôles de gens qui font des drôles de machines, résumer le truc. Donc préférer, c'est difficile.
Mais c'est difficile à dire. Ouais. Et parmi l'aventure chronopassion, mais quel a été ton plus grand échec, s'il y en a un ?
Il y en a toujours. Bah, les échecs, c'est souvent avoir une forte conviction et pas trouver d'écho et que finalement à la fin ça intéresse que moi.
Oui.
Donc ça a été vrai pour un certain nombre de marques qu'on ne citera pas. Ça a été vrai pour quelques éditions spécifiques qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive aussi. Donc oui, des échecs,
il
y en a toujours. L'idée, c'est qu'il y en ait un peu moins que les paris réussis.
Oui.
Et moi, j'ai souvent l'impression d'être un gambler, c'est-à-dire d'être dans un casino et d'essayer de maintenir à 6 ou 7 paris réussis sur 10.
Oui.
Mais bon, on décide pas. Même si on provoque les situations, etc. Et puis après, il y a des éléments qui sont extérieurs. Hein. On parlait de bulles horlogères ou de baisse du marché ou de Covid, etc. Tout ça, après, c'est une question d'adaptation de notre côté pour que les choses se passent le mieux possible. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'au travers de toutes ces rencontres et de toutes ces maisons avec lesquelles on a pu travailler, on a toujours tissé des liens très produits aussi. C'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs, que avec un grand nombre de maisons, on a fait à la fin, quand on met bout à bout un peu tout, énormément de pièces, soit en pièces uniques, soit en séries spécifiques, limitées, etc. Je repense aussi à Gino Macaluso pour Gérard Périgaud, qui était aussi un très bon ami à l'époque, avec qui, à un moment, on s'est amusé, il y a déjà très longtemps, à une époque où il y avait beaucoup moins de complications sur le marché. On faisait chaque année une, deux, trois, quatre pièces uniques avec Gino. Et à une époque d'ailleurs, il le faisait plus, mais il disait, bon, mais on a une relation particulière, t'es pas un détaillant, t'es un galériste, toi tu veux vraiment faire le truc. Bon, donc ça a permis, avec Ulysse Nardin aussi à l'époque, avec Rolf Schneider, on a fait des choses spéciales. Donc, comme j'ai un rapport aux montres qui est assez exacerbé, assez vite, avec les maisons, on rentre parfois dans le process de création. Et c'est pour ça que finalement, on a des rapports qui sont un peu particuliers, un peu à l'image de la marginalité de notre boutique par rapport à ce qu'on représente. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on va dans le monde entier, ou quand on pouvait y aller plus facilement, chez la plupart des horlogers, on a à peu près les mêmes offres. Alors soit ils sont un peu plus avec des marques de tel groupe ou de tel autre, avec Rolex au milieu ou pas. Bon, nous finalement, quand beaucoup d'amateurs arrivent ici, ils disent waouh, c'est la caverne d'Ali Baba quoi ça. C'est incohérent, c'est déraisonnable, mais d'un seul coup, il se passe autre chose, c'est-à-dire je vois des marques que je ne connais pas, parfois, On a pris Singer il y a maintenant 3 ans et demi, je crois. Je suis content de faire découvrir le mouvement de Jean-Marc Widerrecht avec cette première mondiale, 60 heures possibles en prise de temps, avec le style que Marco Borracino a réussi à donner à la montre Singer, qui a le même éclat que les Porsche préparés par Singer lui-même. Donc on reste toujours dans cette idée de quête du Graal, de la montre la plus dingue, et en ayant à la fin une proximité avec les maisons. Quand on fait la première boutique Hublot avec Jean-Claude, bien entendu, on fait des séries de chronos inversés. Il me dit « Ah tiens, c'est bon, je n'avais pas pensé à ça, c'est cool. Ouais, » bon, on fait, tac, les choses se font. À l'époque, avec Audemars, pareil, on a fait deux séries de chronos Titan Microbillet et d'un offshore, pareil à l'époque. Ou à l'époque, entre nous,
oui.
AP disait « Microbillet, nous on n'en fait pas.
Ouais, » oui.
Bon, mais c'était
il y a
25 ans. Donc moi, je suis un homme de produits, je collectionne beaucoup de choses, et ce qui m'intéresse vraiment toujours, au-delà du fait qu'après ça va marcher ou pas, même si on préfère que ça marche, bien entendu, c'est de m'asseoir à une table avec tous ces gens-là, et quand ils montrent quelque chose, si j'ai une idée, de leur dire « Ah, est-ce qu'on pourrait imaginer faire ci ou ça ?» Après, certains disent non. Gérald le premier me disait non, le fantasme, c'est bon, ok. Et puis d'autres disaient ouais, c'est cool. Je veux dire, quand on a fait la Bulgarie tatouée en mai dernier, je veux dire, d'un seul coup, on s'est emballé. Moco Poletta a dessiné des trucs fantastiques. Et alors que c'est pas évident, parce qu'il y a toujours une prise de risque. Mais je pense aussi que c'est un métier où il faut avoir de l'audace. On parlait de Mother tout à l'heure. Je veux dire, l'audace de la Streamliner, beaucoup de maisons ont dit « Je ne vais pas sur un truc comme ça ». Et aujourd'hui, c'est un succès qui fait qu'il y a des listes d'attente pour 2 ans. Donc,
c'est fou.
Je crois que c'est toujours pareil. On a une relation très centrée sur le produit lui-même, avec beaucoup de maisons. En tout cas, quand elles sont réceptives, ce qui est quand même le cas de la plupart.
De la plupart. Mais quelle a été la réussite dont tu es le plus fier ?
Ouah, je ne sais pas, c'est d'être encore là 33 ans après.
Après.
Alors que, a priori, sur le papier, tout était fait pour que ce ne soit pas le cas.
Oui,
et beaucoup de gens me le disaient d'ailleurs. Non, la réussite, elle rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est finalement d'avoir cru à des indépendants qui sont devenus des très grands succès parfois et des bons succès qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir cru en des gens il y a longtemps, qui parfois d'ailleurs n'étaient pas encore avec la maturité qu'ils ont eu quelques années plus tard. Mais qui avait un potentiel qui m'a semblé déceler quoi, dès le début. Donc ça, c'est finalement la fierté, c'est d'avoir de voir aujourd'hui que ça fonctionne toujours pour pas mal d'amis dans ce métier, et d'y avoir contribué un tant soit peu, ça me fait plaisir.
Normal. Dans un monde où on sait qu'il y a une industrialisation du luxe,
mm-hmm.
Mais comment tu vois ça avec les indépendants d'un côté,
ouais,
les groupes de l'autre,
mmh.
Les gros indépendants type Rolex, Audemars Piguet,
ouais,
qui tirent complètement le marché.
Mmh.
Mais penses-tu que ça va durer dans le temps comment tu vois ça?
C'est toujours difficile de faire de la prospective, mais si je reviens au début de ta question, pour moi le vrai luxe, il est chez les indépendants au sens... Des marques qu'on vient de citer, c'est-à-dire oui, de Max Busser et pas mal d'autres. Parce que, de mon point de vue, le vrai luxe, c'est des petites quantités, c'est pas des centaines de boutiques à travers le monde, c'est pas des centaines de milliers ou de pièces produites par année. Le vrai luxe, pour moi, c'est des petites quantités. C'est l'audace de pouvoir se concentrer de façon vraiment parfois longue, mais pour avoir un résultat un peu au-delà de la norme. Et ça, je pense déjà depuis assez longtemps que le vrai luxe a été tué par le côté business model du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire j'ouvre 500 boutiques à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du luxe ou pas?
C'est difficile à dire.
Mon sentiment, c'est plutôt que c'est des objets chers, mais pas forcément du luxe comme le luxe d'antan. Donc, la rareté, quand il y a un savoir-faire au niveau des productions d'indépendants, de tous ceux dont on vient de parler, qui font entre 100 et 700 montres, pour moi, c'est plus les vraies valeurs du luxe. Et d'une certaine façon, j'ai de plus en plus, au fur et à mesure des années, rejoint ce club-là. C'est-à-dire que tous ceux qu'on a portés pendant longtemps, aujourd'hui, sur la trentaine de marques qu'on représente, si on fait le compte, on se rend compte qu'il y a au moins 25 marques d'indépendants de cette taille-là.
Oui, mais qui font des très petites quantités, quoi.
Ouais.
Comment vois-tu l'avenir de l'horlogerie d'ici les prochaines années?
Alors ça,
si on peut, mais de ton avis.
C'est vraiment très difficile, parce que d'abord on est dans une période où le Covid a d'une certaine façon, faussé absolument toutes les prévisions. Je veux dire, les questions qui se posent dans beaucoup de maisons horlogères ont ces difficultés de réponse. Donc l'avenir, j'ai un peu de mal à le visualiser, mais il me semble malgré tout que l'axe des indépendants reste quelque chose de fort et d'intéressant. Et en fait, il y a beaucoup de signaux qui vont vers ça pour ceux qui se débrouillent bien. Je suis pas convaincu que les délires ou les excès de tous ces clients qui veulent la même chose et qui sont prêts parfois à les payer 10 fois leur prix, je suis pas complètement convaincu, même si je peux me tromper, c'est déjà étonnant que ça existe, mais je suis pas complètement convaincu que les choses se perpétuent longtemps forcément dans ce sens. Parce qu'à certains moments, ça fait quand même on rentre dans des paradoxes un peu particuliers dans certaines maisons qui ont des boutiques monomarques en leur nom. C'est un peu curieux maintenant d'arriver de temps en temps et qu'il n'y ait absolument aucune montre.
Oui.
Et que je dois passer une sorte d'examen. Pour savoir si je peux m'inscrire sur une liste d'attente de je ne sais combien d'années. Je pense qu'à un moment donné, il y a des choses autrement aussi, voire plus intéressantes, à regarder sous d'autres noms.
Bien sûr.
Mais bon, peut-être que les choses vont se perpétuer de cette façon, mais je me demande quand même si on n'est pas en train d'arriver un peu au bout de ça. Le troisième point qui paraît clair aussi, c'est que le marché de l'occasion, du pré-owned et du vintage a énormément
augmenté
ces dernières années, dans des proportions qui étaient pas tout à fait prévisibles également. Je pense que le vintage fonctionnera toujours. De toute façon, tout devient vintage. Hein. C'est ce que je disais à certains clients. Je dis, vous achetez que du vintage, mais la pièce qui est neuve aujourd'hui, ce sera une pièce vintage un jour, quoi qu'il arrive, hein, le temps passe. Et il y a des pièces qui font date, d'une certaine façon, par rapport à l'évolution et l'histoire horlogère. Mais en tout cas, c'est un marché qui s'est énormément développé. Qui vient d'une certaine façon donner encore d'autres facettes par rapport à notre industrie horlogère. Le futur aussi, c'est peut-être qu'un jour, et ça c'est mon rêve, il est possible aussi qu'un jour, Apple ne fasse plus de montres.
Ah.
C'est-à-dire qu'il passe à autre chose. C'est-à-dire que la tech l'aura emporté pour faire quelque chose qui soit intégré d'une autre façon et qui nous redonne le poignet pour porter des objets futiles mais mécaniques.
Oui. Après, mais beaucoup découvrent l'horlogerie via l'Apple Watch.
Certes.
Oui, bah je...
Mais beaucoup l'abandonnent aussi par l'Apple Watch.
C'est vrai aussi. Donc, après, où est le juste milieu entre les deux ? Ça,
Le juste milieu, c'est que je pense qu'on a suffisamment d'outils dans ses poches, dans son cartable, dans son sac à dos et sur son bureau pour pallier au fait que on sera pas déconnecté si on a une vraie montre au poignet. C'est ce que je veux dire.
Donc, dans ce sens-là.
Après, chacun est libre.
Si tu devais changer ou faire les choses différemment, ben, qu'est-ce que ça serait ?
Ben, on va voir ça l'année prochaine. On peut pas en parler pour l'instant, mais il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des changements dans l'air. Pas de remise en question à 2000%, mais en tout cas des projets pas neutres. Donc, on se reverra.
Avec plaisir. Merci Laurent pour cette interview. Ben, je mets le lien de Chronopassion dans la description et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique Chronopassion.
On est là.
Rue Saint-Honoré, qui est une très très belle boutique avec beaucoup de pièces, mais c'est vrai qu'on a l'impression de rentrer dans un magasin de jouets, un peu.
C'est un magasin de jouets.
C'est vrai.
Et c'est ce que je dis tout le temps. On n'est pas obligé d'attendre Noël, quoi. C'est Noël tous les jours.
C'est Noël tous les jours.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note positive si vous l'avez apprécié et à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine.